Honoré de Balzac, Illusion perdue.
19. Pendant la discussion, Lucien avait vu sur les murs les portraits de Benjamin Constant, du général Foy, des 17 orateurs illustres du Parti libéral, mêlés à des caricatures contre le gouvernement. Il avait surtout regardé la porte du sanctuaire où devait s'élaborer la feuille spirituelle qui l'amusait tous les jours et qui jouissait du droit de ridiculiser les rois, les événements les plus graves, enfin de mettre tout en question par un bon mot. Il alla flâner sur les boulevards, plaisir tout nouveau pour lui, mais si attrayant qu'il vit les aiguilles des pendules chez les horlogers sur 4 heures, sans apercevoir qu'il n'avait pas déjeuné. Le poète rabattit promptement vers la rue Saint-Fiacre, il monta l'escalier, ouvrit la porte, ne trouva plus le vieux militaire et vit l'invalide assis sur son papier timbré, mangeant une croûte de pain et gardant le poste d'un air résigné, fait au journal comme jadis à la corvée, et ne le comprenant pas plus qu'il ne connaissait le pourquoi des marches rapides ordonnées par l'empereur. Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce redoutable fonctionnaire. Il passa le chapeau sur la tête et ouvrit, comme s'il était de la maison, la porte du sanctuaire. Le bureau de rédaction offrit à ses regards avides une table ronde couverte d'un tapis vert et 6 chaises en merisier garnies de paille encore neuve. Le petit carreau de cette pièce, mis en couleur, n'avait pas encore été frotté, mais il était propre, ce qui annonçait une fréquentation publique assez rare. Sur la cheminée, une glace, une pendule d'épicier couverte de poussière, 2 flambeaux où 2 chandelles avaient été brutalement fichées, enfin des cartes de visite éparses. Sur la table grimaçaient de vieux journaux autour d'un encrier où l'encre séchée ressemblait à de la laque et décorée de plumes tortillées en soleil. Il lut sur de méchants bouts de papier quelques articles d'une écriture illisible et presque hiéroglyphique, déchirés en haut par les compositeurs de l'imprimerie, à qui cette marque sert à reconnaître les articles faits. Puis, ça et là, sur des papiers gris, il admira des caricatures dessinées assez spirituellement par des gens qui, sans doute, avaient tâché de tuer le temps en tuant quelque chose pour s'entretenir la main. Sur le petit papier de tenture couleur vert d'eau, il vit coller avec des épingles 9 dessins différents faits en charge et à la plume sur Le Solitaire, livre qu'un succès inouï recommandait alors à l'Europe et qui devait fatiguer les journalistes. Le Solitaire en province, paraissant, les femmes étonnent. Dans un château, Le Solitaire lut. Effet du solitaire sur les domestiques animaux. Chez les sauvages, Le Solitaire expliqué, le plus succès brillant, obtient. Le Solitaire traduit en chinois est présenté par l'auteur de Pékin à l'empereur. Par le mont sauvage, Élodie violée. Cette caricature sembla très impudique à Lucien, mais elle le fit rire. Par les journaux, Le Solitaire sous un dais promené processionnellement. Le Solitaire faisant éclater une presse, les ours blessent. Lu à l'envers, étonne Le Solitaire, les académiciens par des supérieures beautés. Lucien aperçut sur une bande de journal un dessin représentant un rédacteur qui tendait son chapeau et dessous « Finot, mais sans francs ». Signé d'un nom devenu fameux, mais qui ne sera jamais illustre. Entre la cheminée et la croisée se trouvait une table à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à papier et un tapis oblong appelé devant de cheminée, le tout couvert d'une épaisse couche de poussière. les fenêtres n'avaient que de petits rideaux. Sur le haut de ce secrétaire, il y avait environ 20 ouvrages déposés pendant la journée. Des gravures, de la musique, des tabatières à la charte, un exemplaire de la 9e édition du solitaire, toujours la grande plaisanterie du moment, et une dizaine de lettres cachetées. Quand Lucien eut inventorié cet étrange mobilier, eut fait des réflexions à perte de vue, que 5 heures eurent sonné, il revint à l'Invalide pour le questionner. Coloquinte avait fini sa croûte et attendait avec la patience du factionnaire le militaire décoré qui peut-être se promenait sur le boulevard. En ce moment, une femme parut sur le seuil de la porte après avoir fait entendre le murmure de sa robe dans l'escalier et ce léger pas féminin, si facile à reconnaître. Elle était assez jolie. « Monsieur, » dit-elle à Lucien, « je sais pourquoi vous vantez tant les chapeaux de mademoiselle Virginie et je viens vous demander d'abord un abonnement d'un an. Mais dites-moi ses conditions. »«
Madame, je ne suis pas du journal. »
« Ah, un abonnement à dater d'octobre ?» demanda l'invalide.
« Que réclame madame ?» dit le vieux militaire qui reparut.
Le vieil officier entra en conférence avec la belle marchande de mode. Quand Lucien, impatienté d'attendre, rentra dans la première pièce, il entendit cette phrase finale. «
Mais je serais très enchanté, monsieur.
Mademoiselle Florentine pourra venir à mon magasin et choisira ce qu'elle voudra. Je tiens les rubans.
Ainsi, tout est bien entendu. Vous ne parlerez plus de Virginie, une saveteuse, incapable d'inventer une forme.
Tandis que j'invente, moi. »
Lucien entendit tomber un certain nombre d'écus dans la caisse. Puis le militaire se mit à faire son compte journalier.
« Monsieur, je suis là depuis 1 heure, » dit le poète d'un air assez fâché.
« Ils ne sont pas venus, » dit le vétéran napoléonien en manifestant un émoi par politesse.
« Ça ne m'étonne pas. Voici quelque temps que je ne les vois plus. Nous sommes au milieu du mois, voyez-vous.
Ces lapins-là ne viennent que quand on paie, entre le 29 et le 30.
« Et Monsieur Finot ?» dit Lucien qui avait retenu le nom du directeur.
« Il est chez lui, rue Feydeau. Coloquinte, mon vieux, porte chez lui tout ce qui est venu aujourd'hui, en portant le papier à l'imprimerie. »
« Où se fait donc le journal ?» dit Lucien en se parlant à lui-même.
« Le journal ?» dit l'employé, qui reçut de Coloquinte le reste de l'argent du timbre.
« Le journal ?»«
Mon vieux, sois demain à 6 heures à l'imprimerie pour voir à faire filer les porteurs. »
« Le journal ?»
« Monsieur, se fait dans la rue, chez les auteurs, à l'imprimerie, entre 11 heures et minuit.
Du temps de l'empereur, monsieur, ces boutiques de papier gâté n'étaient pas connues.
Ah, il vous aurait fait secouer ça par 4 hommes et un caporal, et ne se serait pas laissé embêter comme ceci par des phrases.
Mais, assez causé, si mon neveu y trouve son compte, et que l'on écrive pour le fils de l'autre... « Après tout, ce n'est pas un mal. »«
Ah, ça, les abonnés ne m'ont pas l'air d'arriver en colonne serrée. Je vais quitter le poste. »«
Monsieur, vous me paraissez être au fait de la rédaction du journal. »«
Sous le rapport financier,
dit le soldat en ramassant les flegmes qu'il avait dans le gosier,
selon les talents, 100 sous ou 3 francs la colonne, 50 lignes à 60 lettres sans blanc, voilà. »
Quant au rédacteur, c'est de singuliers pistolets, de petits jeunes gens dont je n'aurais pas voulu pour des soldats du train, et qui, parce qu'ils mettent des pattes de mouche sur du papier blanc, ont l'air de mépriser un vieux capitaine des dragons de la garde impériale, retraité chef de bataillon, entré dans toutes les capitales de l'Europe avec Napoléon. »
Lucien, poussé vers la porte par le soldat de Napoléon, qui brossait sa redingote bleue et manifestait l'intention de sortir, eut le courage de se mettre en travers.
« Je viens pour être rédacteur, » dit-il, « et vous jure que je suis plein de respect pour un capitaine de la garde impériale, des hommes de bronze.
Bien dit, mon petit Pékin,
reprit l'officier en frappant sur le ventre de Lucien. « Mais dans quelle classe de rédacteur voulez-vous entrer ?» répliqua le soudard en passant sur le ventre de Lucien et descendant l'escalier. Il ne s'arrêta que pour allumer son cigare chez le portier.
« S'il vient des abonnements, recevez-les et prenez-en note, mère Chollet.
Toujours l'abonnement. Je ne connais que l'abonnement, » reprit-il en se tournant vers Lucien qui l'avait suivi. « Finot est mon neveu, le seul de la famille qui m'ait adouci ma position. Aussi, quiconque cherche querelle à Finot, trouve-t-il le vieux Giroudeau, capitaine aux dragons, parti simple cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse, 5 ans maître d'armes au premier hussard, armée d'Italie. 1, 2, et le plaignant serait à l'ombre, » ajouta-t-il en faisant le geste de se fendre.
« Or donc, mon petit, nous avons différents corps dans les rédacteurs. Il y a le rédacteur qui rédige et qui a sa solde, le rédacteur qui rédige et qui n'a rien,
ce que nous appelons un volontaire.
Enfin, le rédacteur qui ne rédige rien et qui n'est pas le plus bête.
Il ne fait pas de faute, celui-là. Il se donne les gants d'être un homme d'esprit, il appartient au journal, il nous paie à dîner. » Il flâne dans les théâtres, il entretient une actrice, il est très heureux. Que voulez-vous être?
Mais rédacteur travaillant bien et partant bien payé.
Vous voilà comme tous les conscrits qui veulent être maréchaux de France.
Croyez-en le vieux Giroudeau, par fil à gauche, pas accéléré, aller ramasser des clous dans le ruisseau, comme ce brave homme qui a servi, ça se voit à sa tournure.
Est-ce pas une horreur qu'un vieux soldat, qui est allé 1000 fois à la gueule du brutal, ramasse des clous dans Paris?
Dieu de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas soutenu l'empereur.
Enfin, mon petit, ce particulier que vous avez vu ce matin a gagné 40 francs dans son mois. Ferez-vous mieux?
Ils disent que c'est le plus spirituel.
Quand vous êtes allé dans Sambre-et-Meuse, on vous a dit qu'il y avait du danger?
Parbleu!
Eh bien,
allez voir mon neveu Finot, un brave garçon, le plus loyal garçon que vous rencontrerez, si vous pouvez le rencontrer. Car il se remue comme un poisson. Dans son métier, il ne s'agit pas d'écrire, voyez-vous, mais de faire que les autres écrivent. Il paraît que les paroissiens aiment mieux se régaler avec les actrices que de barbouiller du papier.
C'est de singuliers pistolets.
À l'honneur de vous revoir. »
Le caissier fit mouvoir sa redoutable canne plombée, une des protectrices de Germanicus, et laissa Lucien sur le boulevard, aussi stupéfait de ce tableau de la rédaction qu'il l'avait été des résultats définitifs de la littérature chez Vidal et Porchon. Lucien courut 10 fois chez Andoche Finot, directeur du journal, rue Feydeau, sans jamais le trouver. De grand matin, Finot n'était pas rentré. À midi, Finot était en course. Il déjeunait, disait-on, à tel café. Lucien allait au café, demandait Finot à la limonadière, en surmontant des répugnances inouïes. Finot venait de partir. Enfin, Lucien, lassé, regarda Finot comme un personnage apocryphe et fabuleux. Il trouva plus simple de guetter Étienne Lousteau chez Flicoteaux. Le jeune journaliste expliquerait sans doute le mystère qui planait sur la vie du journal auquel il était attaché. Depuis le jour béni 100 fois, où Lucien fit la connaissance de Daniel d'Arthez, il avait changé de place chez Flicoteaux. Les deux amis dînaient à côté l'un de l'autre et causait à voix basse de haute littérature, des sujets à traiter, de la manière de les présenter, de les entamer, de les dénouer. En ce moment, Daniel d'Arthez tenait le manuscrit de l'Archer de Charles IX, il y refaisait des chapitres, il y écrivait « les belles pages qui y sont » et avait encore pour quelques jours de correction. Il y mettait la magnifique préface qui peut-être domine le livre et qui jeta tant de clarté dans la jeune littérature. Un jour, au moment où Lucien s'asseyait à côté de Daniel, qui l'avait attendu, et dont la main était dans la sienne,
il vit à la porte Étienne Lousteau qui tournait le bec de canne. Lucien quitta brusquement la main de Daniel et dit au garçon qu'il voulait dîner à son ancienne place auprès du comptoir. D'Arthez jeta sur Lucien un de ses regards angéliques où le pardon enveloppe le reproche et qui tomba si vivement dans le cœur tendre du poète qu'il reprit la main de Daniel pour la lui serrer de nouveau. « Il s'agit pour moi d'une affaire importante. Je vous en parlerai, » lui dit-il. Lucien était à sa place au moment où Lousteau prenait la sienne. Le premier, il salua. La conversation s'engagea bientôt et fut si vivement poussée entre eux que Lucien alla chercher le manuscrit des Marguerites pendant que Lousteau finissait de dîner. Il avait obtenu de soumettre ses sonnets au journaliste et comptait sur sa bienveillance de parade pour avoir un éditeur ou pour entrer au journal. À son retour, Lucien vit, dans le coin du restaurant, Daniel, tristement accoudé, qui le regarda mélancoliquement. Mais dévoré par la misère et poussé par l'ambition, il feignit de ne pas voir son frère du Cénacle et suivit Lousteau. Avant la chute du jour, le journaliste et le néophyte allèrent s'asseoir sous les arbres dans cette partie du Luxembourg qui, de la grande allée de l'Observatoire, conduit à la rue de l'Ouest. Cette rue était alors un long bourbier, bordé de planches et de marais, où les maisons se trouvaient seulement vers la rue de Vaugirard, et le passage était si peu fréquenté qu'au moment où Paris dîne, deux amants pouvaient s'y quereller et s'y donner les arts d'un raccommodement sans crainte d'y être vu. Le seul trouble-fête possible était le vétéran en faction à la petite grille de la rue de l'Ouest. Si le vénérable soldat s'avisait d'augmenter le nombre de pas qui composent sa promenade monotone. Ce fut dans cette allée, sur un banc de bois, entre deux tilleuls, qu'Étienne écouta les sonnets choisis pour échantillons parmi les Marguerites. Étienne Lousteau, qui depuis 2 ans d'apprentissage avait le pied à l'étrier en qualité de rédacteur et qui comptait quelques amitiés parmi les célébrités de cette époque, était un imposant personnage aux yeux de Lucien. Aussi, tout en détortillant le manuscrit des Marguerites, le poète de province jugea-t-il nécessaire de faire une sorte de préface. « Le sonnet, monsieur, est une des œuvres les plus difficiles de la poésie. Ce petit poème a été généralement abandonné. Personne en France n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la langue, infiniment plus souple que la nôtre, admet des jeux de pensée repoussés par notre positivisme. Pardonnez-moi ce mot. Il m'a donc paru original de débuter par un recueil de sonnets. Victor Hugo a pris l'ode, Canalis le poème, Béranger la chanson, Casimir de Lavigne la tragédie. « Êtes-vous classique ou romantique ?» lui demanda Lousteau. L'air étonné de Lucien dénotait une si complète ignorance de l'état des choses dans la République des Lettres que Lousteau jugea nécessaire de l'éclairer. « Mon cher, vous arrivez au milieu d'une bataille acharnée. Il faut vous décider promptement. La littérature est partagée d'abord en plusieurs zones. » Mais les sommités sont divisées en 2 camps. Les écrivains royalistes sont romantiques, les libéraux sont classiques. La divergence des opinions littéraires se joint à la divergence des opinions politiques, et il s'ensuit une guerre à toutes armes, encre à torrent, bons mots à fer aiguisé, calomnie pointue, sobriquet à outrance. Entre les gloires naissantes et les gloires déchues. Par une singulière bizarrerie, les royalistes romantiques demandent la liberté littéraire et la révocation des lois qui donnent des formes convenues à notre littérature. Tandis que les libéraux veulent maintenir les unités, l'allure de l'alexandrin et les formes classiques.
Les opinions littéraires sont donc en désaccord dans chaque camp avec les opinions politiques. Si vous êtes éclectique, vous n'aurez personne pour vous. De quel côté vous rangez-vous? Quels sont les plus forts? Les journaux libéraux ont beaucoup plus d'abonnés que les journaux royalistes et ministériels. Néanmoins, Lamartine et Victor Hugo percent, quoique monarchiques et religieux, quoique protégés par la cour et par le clergé. Des sonnets, c'est de la littérature d'avant Boileau, dit Étienne, en voyant Lucien effrayé d'avoir à choisir entre deux bannières. Soyez romantique. Les romantiques se composent de jeunes gens, et les classiques sont des perruques. Les romantiques l'emporteront. Le mot perruque était le dernier mot trouvé par le journalisme romantique qui en avait affublé les classiques. « La pâquerette », dit Lucien en choisissant le premier des deux sonnets qui justifiait le titre et servait d'inauguration. « Pâquerette des prés, vos couleurs assorties ne brillent pas toujours pour égayer les yeux. Elles disent encore les plus chères de nos vœux, en un poème où l'homme apprend ses sympathies. Vos étamines d'or, par de l'argent serties, révèlent les trésors dont il fera ses dieux. Et vos filets, où coule un sang mystérieux, ce que coûte un succès en douleur ressentie. Est-ce pour être éclos le jour où du tombeau Jésus, ressuscité sur un monde plus beau, fit pleuvoir des vertus en secouant ses ailes, que l'automne revoie vos courts pétales blancs, parlant en nos regards de plaisirs infidèles, ou pour nous rappeler la fleur de nos 20 ans. Lucien fut piqué de la parfaite immobilité de Lousteau pendant qu'il écoutait ce sonnet. Il ne connaissait pas encore la déconcertante impassibilité que donne l'habitude de la critique et qui distingue les journalistes fatigués de prose, de drame et de vers. Le poète, habitué à recevoir des applaudissements, dévora son désappointement. Il lut le sonnet préféré par Madame de Bargeton et par quelques-uns de ses amis du Cénacle. « Celui-ci lui arrachera peut-être un mot, » pensa-t-il. Deuxième sonnet. La Marguerite. « Je suis la Marguerite. » Et j'étais la plus belle des fleurs dont s'étoilait le gazon velouté. Heureuse, on me cherchait pour ma seule beauté, et mes jours se flattaient d'une aurore éternelle. Hélas, malgré mes vœux, une vertu nouvelle a versé sur mon front sa fatale clarté. Le sort m'a condamné au don de vérité, et je souffre et je meurs, la science est mortelle. Je n'ai plus de silence et n'ai plus de repos. L'amour vient m'arracher l'avenir en deux mots. Il déchire mon cœur pour y lire qu'on l'aime. Je suis la seule fleur qu'on jette sans regret. On dépouille mon front de son blanc diadème et l'on me foule aux pieds dès qu'on a mon secret. » Quand il eut fini, le poète regarda son Aristarque. Étienne Lousteau contemplait les arbres de la pépinière. « Eh bien, lui dit Lucien. « Eh bien, mon cher, allez. Ne vous écoutais-je pas? À Paris, écouter sans maudire est un éloge. En avez-vous assez? Dit Lucien. « Continuez, répondit assez brusquement le journaliste. Lucien lut le sonnet suivant. Mais il le lut, la mort au cœur, et le sang-froid impénétrable de Lousteau lui glaça son débit. Plus avancé dans la vie littéraire, il aurait su que, chez les auteurs, le silence et la brusquerie, en pareilles circonstances, trahissent la jalousie que cause une belle œuvre, de même que leur admiration annonce le bonheur inspiré par une œuvre médiocre qui rassure leur amour-propre. 30e sonnet. Le camélia. Chaque fleur dit un mot du livre de nature. La rose est à l'amour et fête la beauté. La violette exhale une âme aimable et pure, et le lys resplendit de sa simplicité. Mais le camélia, monstre de la culture,
rose sans ambroisie et lys sans majesté, semble s'épanouir aux saisons de froidure pour les ennuis coquets de la virginité. Cependant, au rebord des loges de théâtre, j'aime à voir, évasant leurs pétales d'albâtre, couronnes de pudeur, de blanc camélia. Parmi les cheveux noirs des belles jeunes femmes qui savent inspirer un amour pur aux âmes, comme les marbres grecs du sculpteur Phidias.
Que pensez-vous de mes pauvres sonnets ? Demanda formellement Lucien.
Voulez-vous la vérité ? Dit Lousteau.
Oh, je suis assez jeune pour l'aimer, et je veux trop réussir pour ne pas l'entendre sans me fâcher,
mais non sans désespoir, répondit Lucien.
Eh bien, mon cher, les entortillages du premier annoncent une œuvre faite à Angoulême, et qui vous a sans doute trop coûté pour y renoncer. Le second et le troisième sentent déjà Paris. Mais lisez-moi un autre encore, ajouta-t-il en faisant un geste qui parut charmant au grand homme de province.
Encouragé par cette demande, Lucien lut avec plus de confiance le sonnet que préféraient d'Arthez et Bridau, peut-être à cause de sa couleur.
50e sonnet, la tulipe. Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande, et telle est ma beauté que l'avare flamand paie un de mes oignons plus cher qu'un diamant. Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande. Mon air est féodal, et, comme une Yolande, dans sa jupe à longs plis étoffée amplement, je porte des blasons peints sur mon vêtement, gueule facée d'argent, or avec pourpre en bande. Le jardinier divin a filé de ses doigts les rayons du soleil et la pourpre des rois pour me faire une robe à trame douce et fine. Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur, mais la nature, hélas, n'a pas versé d'odeur dans mon calice fait comme un vase de Chine.
« Eh bien, » dit Lucien, après un moment de silence qui lui sembla d'une longueur démesurée.
« Mon cher, » dit gravement Étienne Lousteau, en voyant le bout des bottes que Lucien avait apportées d'Angoulême et qu'il achevait d'user. « Je vous engage à noircir vos bottes avec votre encre, afin de ménager votre cirage, à faire des cure-dents de vos plumes, pour vous donner l'air d'avoir dîné quand vous vous promenez, en sortant de chez Flicoteaux, dans la belle allée de ce jardin, et à chercher une place quelconque. Devenez petit clerc d'huissier si vous avez du cœur, commis si vous avez du plomb dans les reins, ou soldat si vous aimez la musique militaire. Vous avez l'étoffe de trois poètes, mais avant d'avoir percé, vous avez six fois le temps de mourir de faim si vous comptez sur les produits de votre poésie pour vivre. Or, vos intentions sont, d'après votre jeune discours, de battre monnaie avec votre encrier. Je ne juge pas votre poésie. Elle est de beaucoup supérieure à toutes les poésies qui encombrent les magasins de la librairie. Ces élégants rossignols, vendus un peu plus cher que les autres à cause de leur papier vélin, viennent presque tous s'abattre sur les rives de la Seine. Ou vous pouvez aller étudier leurs chants, si vous voulez faire un jour quelques pèlerinages instructifs sur les quais de Paris, depuis l'étalage du Père Jérôme au pont Notre-Dame jusqu'au pont Royal. Vous rencontrerez là tous les essais poétiques, les inspirations, les élévations, les hymnes, les chants, les ballades, les odes, enfin, toutes les couvées écloses depuis 7 années, des muses couvertes de poussière, éclaboussées par les fiacres, violées par tous les passants qui veulent voir la vignette du titre. Vous ne connaissez personne. Vous n'avez d'accès dans aucun journal. Vos marguerites resteront chastement pliées comme vous les tenez. Elles n'écloront jamais au soleil de la publicité, dans la prairie des grandes marges, émaillées des fleurons que prodigue l'illustre Doria, le libraire des célébrités,
le roi des galeries de bois.
« Mon pauvre enfant, je suis venu, comme vous, le cœur plein d'illusions. Poussé par l'amour de l'art, porté par d'invincibles élans vers la gloire. J'ai trouvé les réalités du métier, les difficultés de la librairie et le positif de la misère. Mon exaltation, maintenant concentrée, mon effervescence première, me cachait le mécanisme du monde. Il a fallu le voir, se cogner à tous les rouages, heurter les pivots, me graisser aux huiles, entendre le cliquetis des chaînes et des volants. Comme moi, vous allez savoir que, sous toutes ces belles choses rêvées, s'agitent des hommes, des passions et des nécessités. Vous vous mêlerez forcément à d'horribles luttes, d'œuvre à œuvre, d'homme à homme, de partie à partie, où il faut se battre systématiquement pour ne pas être abandonné par les siens. Ces combats ignobles désenchantent l'âme, dépravent le cœur et fatiguent en pure perte, car vos efforts servent souvent à faire couronner un homme que vous haïssez, un talent secondaire, présenté malgré vous comme un génie. La vie littéraire a ses coulisses, les succès surpris ou mérités, voilà ce qu'applaudit le parterre. Les moyens toujours hideux, les comparses enluminés, les claqueurs et les garçons de service, voilà ce que recèlent les coulisses. Vous êtes encore au parterre. Il en est temps. Abdiquez avant de mettre un pied sur la première marche du trône que se disputent tant d'ambitions, et ne vous déshonorez pas, comme je le fais, pour vivre. » Une larme mouilla les yeux d'Étienne Lousteau. « Savez-vous comment je vis ? » reprit-il avec un accent de rage. « Le peu d'argent que pouvait me donner ma famille fut bientôt mangé. Je me trouvais sans ressources après avoir fait recevoir une pièce au Théâtre Français. Au Théâtre Français, la protection d'un prince ou d'un premier gentilhomme de la chambre du roi ne suffit pas pour faire obtenir un tour de faveur. Les comédiens ne cèdent qu'à ceux qui menacent leur amour-propre. Si vous aviez le pouvoir de faire dire que le jeune premier a un asthme, la jeune première une fistule où vous voudrez, que la soubrette tue les mouches au vol, vous seriez joué demain. Je ne sais pas si dans 2 ans d'ici, je serai, moi qui vous parle, en état d'obtenir un semblable pouvoir. Il faut trop d'amis. Où, comment et par quoi gagner mon pain fut une question que je me suis faite en sentant les atteintes de la faim. Oh, après bien des tentatives, après avoir écrit un roman anonyme payé 200 francs par Doguereau, qui n'y a pas gagné grand-chose, il m'a été prouvé que le journalisme seul pourrait me nourrir. Mais comment entrer dans ces boutiques? Je ne vous raconterai pas mes démarches et mes sollicitations inutiles, ni 6 mois passés à travailler comme surnuméraire et à m'entendre dire que j'effarouchais l'abonné, quand au contraire, je l'apprivoisais. Passons sur ces avanies. Je rends compte aujourd'hui des théâtres du boulevard, presque gratis, dans le journal qui appartient à Finot, ce gros garçon qui déjeune encore 2 ou 3 fois par mois au café Voltaire. Mais vous n'y allez pas. Finot est rédacteur en chef. Je vis en vendant les billets que me donnent les directeurs de ces théâtres pour solder ma sous-bienveillance au journal, les livres que m'envoient les libraires et dont je dois parler. Enfin, je trafique, une fois Finot satisfait, des tributs en nature qu'apportent les industries pour lesquelles ou contre lesquelles il me permet de lancer des articles. L'eau carminative, la pâte des sultanes, l'huile céphalique, la mixture brésilienne, paient un article goguenard 20 ou 30 francs. Je suis forcé d'aboyer après le libraire
qui donne peu d'exemplaires au journal. Le journal en prend deux que vend Finot. Il m'en faut deux à vendre. Publia-t-il un chef-d'œuvre ? Le libraire avare d'exemplaires est assommé. C'est ignoble, mais je vis de ce métier, moi comme cent autres. Ne croyez pas le monde politique beaucoup plus beau que ce monde littéraire. Tout dans ces deux mondes est corruption. Chaque homme y est corrupteur ou corrompu. Quand il s'agit d'une entreprise de librairie un peu considérable, le libraire me paie, de peur d'être attaqué. Aussi, mes revenus sont-ils en rapport avec les prospectus. Quand le prospectus sort en éruption miliaire, l'argent entre à flot dans mon gousset. Je régale alors mes amis. Pas d'affaires en librairie, je dîne chez Flicoteaux. Les actrices paient aussi les éloges, mais les plus habiles paient les critiques. Le silence est ce qu'elles redoutent le plus. Aussi, une critique, faite pour être rétorquée ailleurs, vaut-elle mieux et se paie-t-elle plus cher qu'un éloge tout sec, oublié le lendemain ? La polémique, mon cher, est le piédestal des célébrités. À ce métier de spadassin des idées et des réputations industrielles, littéraires et dramatiques, je gagne 50 écus par mois. Je puis vendre un roman 500 francs. Et je commence à passer pour un homme redoutable. Quand, au lieu de vivre chez Florine, aux dépens d'un droguiste qui se donne des airs de Milord, je serai dans mes meubles, que je passerai dans un grand journal où j'aurai un feuilleton, ce jour-là, mon cher, Florine deviendra une grande actrice. Quant à moi, je ne sais pas alors ce que je puis devenir. Ministre ou honnête homme, tout est encore possible. Il releva sa tête humiliée, jeta vers le feuillage un regard de désespoir accusateur et terrible. « Et j'ai une belle tragédie reçue, et j'ai dans mes papiers un poème qui mourra, et j'étais bon, j'avais le cœur pur, j'ai pour maîtresse une actrice du panorama dramatique, moi qui rêvais de belles amours parmi les femmes les plus distinguées du grand monde. Enfin, pour un exemplaire refusé par le libraire à mon journal, je dis du mal d'un livre que je trouve beau. » Lucien, ému aux larmes, serra la main d'Étienne. « En dehors du monde littéraire, dit le journaliste en se levant et se dirigeant vers la grande allée de l'observatoire où les deux poètes se promenèrent comme pour donner plus d'air à leurs poumons, il n'existe pas une seule personne qui connaisse l'horrible odyssée par laquelle on arrive à ce qu'il faut nommer, selon les talents, la vogue, la mode, la réputation, la renommée, la célébrité, la faveur publique, ces différents échelons qui mènent à la gloire et qui ne la remplacent jamais. Ce phénomène moral si brillant se compose de 1000 accidents qui varient avec tant de rapidité qu'il n'y a pas d'exemple de deux hommes parvenus par une même voie. Canalis et Nathan sont deux faits dissemblables et qui ne se renouvelleront pas. D'Arthez, qui s'éreint à travailler, deviendra célèbre par un autre hasard. Cette réputation tant désirée est presque toujours une prostituée couronnée. Oui, pour les basses œuvres de la littérature, elle représente la pauvre fille qui gèle au coin des bornes. Pour la littérature secondaire, c'est la femme entretenue qui sort des mauvais lieux du journalisme et à qui je sers de souteneur. Pour la littérature heureuse, c'est la brillante courtisane insolente qui a des meubles, paie des contributions à l'État, reçoit les grands seigneurs, les traite et les maltraite, a sa livrée, sa voiture, et qui peut faire attendre ses créanciers altérés. Ah ! Ceux pour qui elle est, pour moi jadis, pour vous aujourd'hui, un ange aux ailes diaprées, revêtu de sa tunique blanche, montrant
une palme verte dans sa main, une flamboyante épée dans l'autre, tenant à la fois de l'abstraction mythologique qui vit au fond d'un puits et de la pauvre fille vertueuse, exilée dans un faubourg, ne s'enrichissant qu'aux clartés de la vertu par les efforts d'un noble courage, et revolant aux cieux avec un caractère immaculé quand elle ne décède pas souillée, fouillée, violée, oubliée dans le char des pauvres. Ces hommes à cervelle cerclée de bronze, au cœur encore chaud sous les tombées de neige de l'expérience, ils sont rares dans le pays que vous voyez à nos pieds, dit-il en montrant la grande ville qui fumait au déclin du jour. Une vision du cénacle passa rapidement aux yeux de Lucien, elle l'émut, mais il fut entraîné par Lousteau, qui continua son effroyable lamentation. « Oh, ils sont rares et clairsemés dans cette cuve en fermentation, rares comme les vrais amants dans le monde amoureux, rares comme les fortunes honnêtes dans le monde financier, rares comme un homme pur dans le journalisme. L'expérience du premier qui m'a dit ce que je vous dis a été perdue, comme la mienne sera sans doute inutile pour vous. Toujours la même ardeur précipite chaque année de la province, ici, un nombre égal, pour ne pas dire croissant, d'ambitions imberbes, qui s'élancent la tête haute, le cœur altier, à l'assaut de la mode, cette espèce de princesse tourandocte des mille et un jours, pour qui chacun veut être le prince calafe. Mais aucun ne devine l'énigme. Tous tombent dans la fosse du malheur, dans la boue du journal, dans les marais de la librairie. Ils glanent, ces mendiants, des articles biographiques, des tartines, des faits paris aux journaux, ou des livres commandés par de logiques marchands de papier noirci, qui préfèrent une bêtise qui s'enlève en 15 jours à un chef-d'œuvre qui veut du temps pour se vendre. Ces chenilles, écrasées avant d'être papillons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à mordre un talent naissant sur l'ordre d'un pacha du constitutionnel, de la quotidienne, des débats, au signal des libraires, à la prière d'un camarade jaloux, souvent pour un dîner. Ceux qui surmontent les obstacles oublient les misères de leur début. Moi qui vous parle, j'ai fait pendant 6 mois des articles où j'ai mis la fleur de mon esprit pour un misérable qui les disait de lui, qui, sur ses échantillons, a passé rédacteur d'un feuilleton. Il ne m'a pas pris pour collaborateur, il ne m'a même pas donné 100 sous. Je suis forcé de lui tendre la main et de lui serrer la sienne. « Et pourquoi ?» dit fièrement Lucien. « Je puis avoir besoin de mettre 10 lignes dans son feuilleton, » reprit froidement Lousteau. « Enfin, mon cher, travailler n'est pas le secret de la fortune en littérature. Il s'agit d'exploiter le travail d'autrui. Les propriétaires de journaux sont des entrepreneurs. Nous sommes des maçons. Aussi, plus un homme est médiocre, plus promptement arrive-t-il. Il peut avaler des crapauds vivants, se résigner à tout, flatter les petites passions basses des sultans littéraires, comme un nouveau venu de Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà de la politique dans un journal du centre droit et qui travaille à notre petit journal. Je lui ai vu ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur en chef. En offusquant personne, ce garçon-là passera entre les ambitions rivales pendant qu'elles se battront. Vous me faites pitié. Je me vois en vous comme j'étais, et je suis sûr que vous serez, dans 1 ou 2 ans, comme je suis. Vous croirez à quelque jalousie secrète, à quelque intérêt personnel, dans ces conseils amers. Mais ils sont dictés par le désespoir du damné qui ne peut plus quitter l'enfer. Personne n'ose dire ce que je vous crie avec la douleur de l'homme atteint au cœur, et comme un autre Job sur le fumier.
voici mes ulcères.
Lutter sur ce champ ou ailleurs, je dois lutter, dit Lucien.
Sachez-le donc, reprit Lousteau, cette lutte sera sans trêve si vous avez du talent, car votre meilleure chance serait de n'en pas avoir. L'austérité de votre conscience, aujourd'hui pure, fléchira devant ceux à qui vous verrez votre succès entre les mains, qui, d'un mot, peuvent vous donner la vie et qui ne voudront pas le dire. Car croyez-moi, l'écrivain à la mode est plus insolent, plus dur envers les nouveaux venus que ne l'est le plus brutal libraire. Où le libraire ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un rival. L'un vous est conduit, l'autre vous écrase. Pour faire de belles œuvres, mon pauvre enfant, vous puiserez à pleine plumée d'encre dans votre cœur la tendresse, la sève, l'énergie, et vous l'étalerez en passion, en sentiment, en phrases. Oui, vous écrirez au lieu d'agir, vous chanterez au lieu de combattre, vous aimerez, vous haïrez, vous vivrez dans vos livres. Mais quand vous aurez réservé vos richesses pour votre style, votre or, votre pourpre pour vos personnages, que vous vous promènerez en guenille dans les rues de Paris, heureux d'avoir lancé, en rivalisant avec l'état civil, un être nommé Adolphe, Corinne, Clarisse, René, que vous aurez gâté votre vie et votre estomac pour donner la vie à cette création, vous la verrez calomniée, trahie, vendue, déportée dans les lagunes de l'oubli par les journalistes, ensevelie par vos meilleurs amis. Pourrez-vous attendre le jour où votre créature s'élancera, réveillée par qui, quand, comment? Il existe un magnifique livre, Le Pianto de l'incrédulité, Obermann, qui se promène solitaire dans le désert des magasins, et que dès lors, les libraires appellent ironiquement un rossignol. Quand Pâques arrivera-t-il pour lui? Personne ne le sait. Avant tout, essayez de trouver un libraire assez osé pour imprimer les marguerites. Il ne s'agit pas de vous les faire payer, mais de les imprimer. Vous verrez alors des scènes curieuses. Cette rude tirade, prononcée avec les accents divers des passions qu'elle exprimait, tomba comme une avalanche de neige dans le cœur de Lucien et y mit un froid glacial. Il demeura debout et silencieux pendant un moment. Enfin, son cœur, comme stimulé par l'horrible poésie des difficultés, éclata. Lucien serra la main de Lousteau et lui cria « Je triompherai !»« Bon, dit le journaliste, encore un chrétien qui descend dans l'arène pour se livrer aux bêtes. Mon cher, il y a ce soir une première représentation au Panorama dramatique. Elle ne commencera qu'à 8 heures. Il est 6 heures. Allez mettre votre meilleur habit. Enfin, soyez convenable. Venez me prendre. Je demeure rue de la Harpe, au-dessus du café Cervelle, au 4e étage. Nous passerons chez Doria d'abord. Vous persistez, n'est-ce pas? Eh bien, je vous ferai connaître ce soir un des rois de la librairie et quelques journalistes. Après le spectacle, nous souperons chez ma maîtresse avec des amis, car notre dîner ne peut pas compter pour un repas. Vous y trouverez Finot, le rédacteur en chef et le propriétaire de mon journal. Vous savez le mot de Minette du Vaudeville, « Le temps est un grand maigre ». Eh bien, pour nous, le hasard est aussi un grand maigre. Il faut le tenter. Je n'oublierai jamais cette journée, dit Lucien. Munissez-vous de votre manuscrit et soyez en tenue, moins à cause de Florine que du libraire. La bonhomie de camarade qui succédait au cri violent du poète peignant la guerre littéraire toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place
par la parole grave et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les hommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne soupçonna point la réalité des malheurs moraux que lui dénonçait le journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes, entre deux systèmes représentés par le Cénacle et par le journalisme, dont l'un était long, honorable, sûr, l'autre semé d'écueils périlleux, plein de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa conscience. Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble amitié de d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet esprit mobile aperçut dans le journal une arme à sa portée. Il se sentait habile à la manier. Il l'a voulu prendre. Ébloui par les offres de son nouvel ami, dont la main frappa la sienne avec un laisser-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la presse, chacun a besoin d'amis, comme les généraux ont besoin de soldats. Lousteau, lui voyant de la résolution, le racolait en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à son premier ami, comme Lucien à son premier protecteur. L'un voulait passer caporal, l'autre voulait être soldat.